Effectivement, Wall Street qui a ouvert avec ce décalage horaire, toujours puisque les Américains sont déjà passés à l'heure d'été. Oui, ils font toujours tout avant nous, les Américains. Ils sont en avance. Et John Plassard est dans la place. Bonjour John, depuis les bureaux de Mirabeau.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver. On va analyser avec vous cette séance américaine. Aude Kersulek aussi avec nous depuis la tour Euronext. Bonjour Aude, ravi aussi de vous retrouver en direct sur BFM Business.
Bonjour.
Une heure de cotation aux États-Unis. Comment ça se passe aujourd'hui, Aude?
Eh bien, même s'ils sont en avance, les Américains, là, ils sont en baisse, les indices, depuis une heure. Hein, moins 0,15% pour le Nasdaq, moins 0,17% pour le S&P 500, et c'est même un petit peu plus pour le Dow Jones, moins 0,26% au début d'une petite semaine. Hein, c'est vrai, on n'aura pas de séance vendredi. La course vers les records qui semble légèrement pour le moment s'arrêter. On a notamment des mauvaises nouvelles hein, dans la tech, on va en parler dans un instant, mais on a par exemple Intel et Apple qui sont en baisse de entre 1,5% et moins 2%. Nvidia en revanche est à la hausse hein, cet après-midi, on prend 2%. En tout cas, donc la dernière semaine du mois, mais on est quand même en route hein, vers un cinquième mois consécutif de hausse pour ce début d'année.
Effectivement, et Nvidia qui gagne 2%, qui est à moins de 300 milliards de dollars d'Apple. Désormais Nvidia qui vient vraiment peut-être se mettre en position de doubler Apple d'ici la fin du mois d'avril. Si Nvidia progresse encore dans les 4 prochaines semaines au même rythme qu'il a progressé ces 4 dernières semaines, Nvidia passera d'ici fin avril devant le titre Apple. Ce serait quand même un sacré symbole. John Plassard est avec nous donc depuis Mirabeau. Bonjour John, content de vous retrouver également. Quels seront les principaux rendez-vous à venir cette semaine aux États-Unis ?
Bah écoutez Guillaume, pas grand chose, mais officiellement, si on regarde demain, on va avoir les commandes de biens durables aux États-Unis, on va avoir la confiance du consommateur. On sait que la confiance est très importante, hein. On parle de soft landing ou de no landing, donc ça nous donnera un peu plus d'indications. Jeudi, on aura la dernière lecture de la croissance américaine pour le quatrième trimestre 2023. Je vous rappelle quand même qu'on était à 3,2%, donc ça devrait être confirmé. Et vendredi, bah, les marchés seront fermés, mais c'est le chiffre de la semaine, c'est le chiffre PCE, l'inflation de février aux États-Unis qui devrait légèrement remonter au niveau annuel en passant de 2,4 à 2,5%. Donc potentiellement, ça pourrait mettre un peu plus de volatilité sur les marchés la semaine prochaine puisque vendredi est fermé. Et on a aussi Jérôme Powell qui va faire des commentaires sur le marché vendredi. Mais évidemment, les réactions à attendre seront la semaine prochaine.
C'est la dernière semaine du trimestre là, qu'on est en train de vivre sur les marchés. On va passer au mois d'avril dès vendredi. Dernière semaine du trimestre, le moment haute de tirer un premier bilan justement du premier trimestre et du début de l'année sur les marchés.
Ah oui, surtout après la course record hein, qu'on a eue ces dernières semaines, bon, qui s'interrompt légèrement en ce début de semaine. Alors en tout cas, on a l'indice, le S&P qui a progressé de 2,3% la semaine dernière. Pourtant, John, vous allez nous dire que le S&P, quand même, depuis le début de l'année, bah, il a connu que son 15e meilleur début d'année. Est-ce que ça veut dire qu'il y a encore du potentiel pour aller plus haut cette année?
Ça paraît assez fou, Aude, parce qu'effectivement, on fait environ du plus 10% depuis le début de l'année sur le S&P 500. Et c'est seulement, comme vous l'avez dit, le 15e meilleur démarrage de l'année depuis 1928. Donc, ça veut dire que potentiellement, il y a encore un moteur derrière ces marchés, un moteur pour que les indices continuent à monter. Alors, la première des choses, c'est bien évidemment les anticipations de baisse de taux aux États-Unis à partir de juin. La deuxième des choses, eh bien, c'est la résilience de l'économie. On a vu que l'économie américaine qui devrait progresser de près de 2,5% lors du premier trimestre, eh bien, n'arrive pas à fléchir. C'est une bonne nouvelle. Et puis, les résultats des entreprises américaines pour le premier trimestre qui vont être publiés dans 2 semaines. Et puis, au niveau technique, eh bien, c'est la Bank of America qui nous rappelle ici que le S&P 500 entre dans sa 11e année de hausse d'un bull market séculaire, c'est-à-dire un bull market sur le long terme. On avait eu la même chose entre 1950 et 1966 et entre 1980 et 2000. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire, tenez-vous bien, Aude, que potentiellement, si on regarde au niveau technique, eh bien, le S&P 500 pourrait continuer à monter durant ces 3-4 prochaines années.
Même si, bien sûr, et on le rappelle régulièrement, les performances passées ne présagent pas des performances à venir. Mais c'est intéressant. Et effectivement, malgré tous ces records sur les indices américains, le S&P n'est en train de vivre que son 15e meilleur début d'année depuis 1928. Donc, peut-être encore du potentiel à venir. Aux États-Unis, on se prépare toujours pour la présidentielle. On est à 227 jours maintenant. 227 jours du scrutin. Et pour Donald Trump, on est déjà sur le jour J, là. Une première étape importante pour l'ex-président américain qui se présente à nouveau dans le camp républicain. Donald Trump va-t-il réussir, John, et il le saura sans doute aujourd'hui, à réunir l'argent nécessaire s'il peut, s'il espère déposer une caution dans son jugement pour fraude civile?
Ouais, très important, très très important, parce qu'on sait que les Américains, s'ils devaient être condamnés, eh bien, on est dans une situation où moins d'Américains voteraient pour lui, c'est les sondages qui nous le disent. On rappelle quand même les montants, Guillaume, il doit apparemment, il a fait appel évidemment, 450 millions de dollars, ou 464 si on ajoute les sommes dues par ses fils et par la Trump Administration. Et en fait, on nous rappelle ici aux États-Unis, parce qu'évidemment tout le monde en parle, que s'il n'arrive pas à réunir une caution, eh bien, des biens tels que ses immeubles, ses maisons, les voitures, les hélicoptères et son avion sont en jeu. Et ce qui est très intéressant de noter, c'est qu'au niveau juridique, l'accent pourrait être mis sur ses comptes bancaires qui, selon les experts, seront beaucoup plus faciles à saisir que ses propriétés, notamment sa propriété en Floride. Alors évidemment, Donald Trump a demandé à une cour d'appel aux États-Unis à l'autoriser à déposer une caution moins élevée, voire pas de caution du tout, parce qu'il rappelle que s'il était obligé de vendre du jour au lendemain ses biens immobiliers et, comme on l'a dit, ses hélicoptères et avions, eh bien, le prix ne reflèterait pas les prix de la réalité. Donc, une bataille judiciaire et un jour très, très important pour Trump et potentiellement pour les gens qui vont voter pour lui en novembre prochain.
Effectivement, journée importante pour Donald Trump qui, s'il espère effectivement pouvoir obtenir une caution pour jugement de fraude civile, va devoir pour cela réunir l'argent. Il aura là-dessus donc de premières indications, de premières pistes dans les prochaines heures. Wall Street ouvre donc légèrement dans le rouge aujourd'hui. On est à maintenant 1h07 de cotation. Et un titre qu'on va surveiller, Intel, AMD aussi, des grandes pressions chinoises sur Intel et AMD. Intel perd 2%, on va tout vous expliquer dans un instant. Mais d'abord, Aude, un coup d'œil aussi dans l'aérien au titre Boeing, à ne pas rater Boeing aujourd'hui.
C'est la fois entreprise de ce lundi matin à Wall Street. David Calhoun, le directeur général, hein, il n'est pas président du conseil d'administration, qui va démissionner. Alors, ce n'est pas effectif maintenant, hein, ce sera à la fin de l'année. L'action, elle est en hausse aujourd'hui, hein, plus 0,8% pour Boeing, mais tout de même, on perd 26% depuis le début de l'année. Alors, l'action, si le CEO part à la fin de l'année, John, est-ce qu'elle peut remonter d'ici la fin de l'année?
Bah, écoutez, c'est une des raisons de la remontée, c'est qu'on essaye évidemment de trouver des coupables au déboire de Boeing depuis le début de l'année. Je vous rappelle quand même qu'on a une porte d'un avion d'Alaska Airways qui est parti, une roue qui est partie sur un avion de United Airlines, etc., etc. Et donc, on est ici dans une situation où a été reproché au CEO qui va quitter, comme vous l'avez dit, Aude, la société à la fin de l'année, d'avoir privilégié les ventes plutôt que la sécurité. Ça paraît assez fou, mais face à une concurrence accrue par rapport à Airbus, eh bien, on accuse le CEO partant d'avoir voulu accélérer la cadence des ventes et de la fabrication des Boeing au détriment de la sécurité, comme je le disais. Donc, c'est un premier pas, mais évidemment, il va falloir absolument pas qu'il y ait de nouvelles négatives sur Boeing et surtout qu'on nous confirme que la sécurité sur ces avions a été mise en avant, a été privilégiée face aux ventes d'avions pour concurrencer Airbus.
Et donc le directeur général qui va s'en aller en fin d'année, Boeing réagit bien en bourse, plus 1,5%. En revanche, on le disait, dans le secteur des puces, grosse pression chinoise, AMD et Intel reculent, notamment Intel aujourd'hui, moins 2%, AMD moins 0,6%.
Oui, il faut rappeler une chose, Guillaume, c'est que les États-Unis ont pris d'abord plusieurs mesures pour empêcher les entreprises chinoises d'acquérir les dernières puces d'intelligence artificielle, d'ASML et de Nvidia, et d'envoyer ces machines de fabrication de puces avancées à Pékin. Alors, c'était assez logique d'une certaine manière que Pékin réplique en ripostant, en introduisant de nouvelles directives selon lesquelles les puces, comme vous l'avez dit, d'Intel et d'AMD seront progressivement retirées des PC et des serveurs du gouvernement. Ça nous fait penser à l'utilisation notamment des iPhones dont on parlait en fin d'année passée. Et on est dans une situation où Pékin intensifie sa campagne visant à remplacer la technologie étrangère par les solutions locales. Et donc, évidemment, aussi les téléphones locaux. Donc, on est aussi dans une situation où le gouvernement va essayer d'écarter de plus en plus le système d'exploitation Windows de Microsoft. Et on va avoir, évidemment, une intensification de la guerre commerciale, parce qu'on peut appeler ça une guerre commerciale, même avant l'arrivée potentielle de Donald Trump en novembre.
Effectivement, John Blassard avec nous depuis les bureaux de Mirabeau pour les marchés américains. Le suivi, Wall Street qui a ouvert il y a un peu plus d'une heure dix, en légère baisse les indices US. Aude Kersulek aussi est avec nous, puis la tour Euronext. Et Aude, vous continuez de nous accompagner bien sûr tout au long de l'après-midi.